Chapitre 4. Deux hommes et les anciens. Dans cette région-là, les anciens de Rossem n'étaient pas tout à fait tels qu'on aurait pu s'y attendre. Ils étaient même loin de constituer la super paysannerie habituelle en pareil cas. Des paysans finalement, mais plus âgés, plus autoritaires, moins amicaux que leurs congénères. À vrai dire, ce n'était pas du tout le cas. La dignité dont ils avaient fait preuve à la première entrevue s'était accentuée au point de devenir leur caractéristique dominante aux yeux des visiteurs. Ils étaient là, tous assis autour de leur table ovale, comme autant de doctes philosophes, avares de leurs mouvements. La plupart d'entre eux avaient dépassé le cap de la prime jeunesse. Néanmoins, les quelques individus dont le visage s'agrémentait d'une barbe la portaient courte et soigneusement taillée. Cependant, suffisamment nombreux étaient ceux qui ne paraissaient pas avoir encore atteint la quarantaine pour que le titre d'ancien pût être considéré comme un témoignage de respect plutôt que comme une référence explicite à l'âge de l'intéressé. Les deux visiteurs d'outre-espace occupaient les places d'honneur en bout de table. Un silence solennel accompagnait le repas plutôt frugal auquel ils venaient de prendre part et qui tenait à vrai dire davantage du cérémonial que du festin. Les deux hommes mirent cet instant à profit pour s'imprégner de cette atmosphère nouvelle, laquelle contrastait à l'évidence avec ce qu'ils avaient connu jusqu'à présent. Le repas terminé, après qu'une ou deux observations respectueuses, trop brèves et trop simples pour qu'on pût les qualifier de discours, eurent été prononcées par ceux des anciens qui jouissaient apparemment de la plus haute estime, la réunion prit un tour plus familier. L'accueil, somme toute protocolaire auquel les deux étrangers venaient d'avoir droit, semblait devoir céder le pas à une ambiance plus rustique, savant mélange de curiosité et d'amitié. Les anciens se mirent à entourer les nouveaux venus et les pressèrent de questions. Ils demandaient s'il était difficile de piloter un vaisseau, de combien de membres se composait l'équipage, s'il était possible de construire de meilleurs moteurs pour leur vaisseau, s'il était vrai qu'il neigeait rarement sur les autres planètes, et notamment sur Finstellis, comme il l'avait entendu dire. Combien de gens vivaient sur leur monde? S'il était aussi étendu que Finstellis, quelle distance les en séparait? Comment étaient tissés les vêtements que portaient les visiteurs, et ce qui leur donnait ce lustre métallique? Pourquoi ils ne portaient pas de fourrure? S'ils se rasaient tous les jours, quelle sorte de pierre portait la bague de Preacher, et ainsi de suite? Et presque invariablement, les questions étaient adressées à Preacher, comme si, en sa qualité d'aîné, il était automatiquement investi de la plus haute autorité. Le général se trouva contraint de répondre avec un luxe accru de détails. Il avait l'impression d'être entouré par une foule d'enfants. Leurs questions témoignaient d'un émerveillement extrême, absolument désarmant. Leur soif d'apprendre était immense et ne souffrait pas de résistance. Preacher expliqua que les vaisseaux n'étaient pas difficiles à piloter et que l'importance de leurs équipages variait selon la taille de l'engin. Un seul homme pouvait parfois suffire, dans d'autres cas un équipage très nombreux était nécessaire. Il affirma qu'il ignorait les détails de construction de leurs moteurs, mais qu'il était certain qu'ils étaient susceptibles d'amélioration. Que les climats variaient à l'infini suivant les planètes. Que des populations se chiffrant par centaines de millions vivaient sur le monde d'où ils venaient, mais qu'il était beaucoup moins étendu et plus insignifiant que le grand empire de Finstellis. Que leurs vêtements étaient tissés à l'aide de fils de silicone, sur lesquels le lustre était obtenu artificiellement par une orientation convenable des molécules superficielles et qu'on pouvait les réchauffer artificiellement, si bien qu'il n'était pas nécessaire de porter des fourrures. Qu'ils se rasaient tous les jours. Que la pierre enchâssée dans sa bague était une améthyste. Et les questions fusaient toujours. Bien malgré lui, il sentait fondre sa rude carapace au contact de ses naïfs villageois. Et invariablement, ses réponses étaient suivies d'un rapide commentaire des anciens qui se mettaient à jacasser tous ensemble comme s'ils débattaient de la qualité des informations obtenues. Il était difficile de suivre leurs discussions, car ils utilisaient alors spontanément la variante locale du langage galactique universel, laquelle, pour avoir été trop longtemps séparée de la langue mère, était devenue archaïque, notamment, mais pas seulement du point de vue de la prononciation. On aurait presque pu dire que les brefs commentaires qu'ils échangeaient frôlaient le seuil de la compréhension, sans jamais vraiment l'atteindre, demeurant ainsi désespérément hors de portée de nos deux visiteurs. Chenis finit par mettre un terme à tout cela. « Très chers hôtes, votre tour est maintenant venu de répondre à nos questions, car nous sommes étrangers, et nous aimerions bien connaître tout ce qu'il est possible de connaître à propos de Finstelis. » Voici ce qui se passa alors. Un grand silence se fit sur l'assemblée, et les anciens qui l'instant d'avant parlaient avec une intarissable volubilité devinrent muets comme des carpes. Leurs mains, qui voltaient avec tant d'agilité et de délicatesse, comme pour donner à leurs paroles plus de portée et exprimer les diverses nuances de leurs pensées, se figèrent soudain, comme paralysés. Ils échangèrent des regards furtifs, enclins, selon toute apparence, à s'effacer les uns devant les autres. Preacher s'empressa d'intervenir. « Mon compagnon formule cette demande en toute amitié. » Car la renommée de Finstelis s'est étendue à toute la galaxie, et nous ne manquerons pas naturellement d'informer le gouverneur de la loyauté et de l'affection que lui portent les anciens de Rossem. Nul soupir de soulagement ne fut poussé, mais les visages s'animèrent quelque peu. L'un des anciens se mit à lisser délicatement sa barbe à l'aide du pouce et de l'index, puis il dit « Nous sommes les fidèles serviteurs des seigneurs de Finstelis. » À ces mots, la contrariété que Preacher avait éprouvée en écoutant Chenis formuler sa demande avec aussi peu de diplomatie s'atténua quelque peu. Il était évident, du moins, que les effets de l'âge dont il avait ressenti depuis peu les premières atteintes ne lui avaient pas retiré la faculté de réparer les bourdes commises par les autres. « Nous venons des confins de l'univers, » continua-t-il. « L'histoire des anciens seigneurs de Finstelis nous est pour ainsi dire inconnu. Nous supposons toutefois que ces souverains éclairés règnent sur ces contrées depuis des temps immémoriaux. » L'ancien, qui était déjà intervenu auparavant, semblant assumer désormais tout naturellement le rôle de porte-parole, répondit à nouveau. « Même le grand-père du plus âgé d'entre nous n'a nulle souvenance d'une époque d'où les seigneurs aient été absents, » dit-il. « Les seigneurs ont-ils apporté la paix ?»« Ils ont apporté la paix. » Il marqua une certaine hésitation. « Le gouverneur est un très puissant seigneur. Il n'hésiterait pas à punir les traîtres. Naturellement, il n'y a pas de traîtres parmi nous. J'imagine que dans le passé, certains ont expié leurs fautes comme ils le méritaient. »
Nouvelle hésitation.
« Il ne s'est jamais trouvé de traître dans nos rangs, ni chez nos pères, ni chez les pères de nos pères. Mais il n'en a pas été de même dans d'autres mondes, et une mort prompte a sanctionné la faute des coupables. Il ne convient pas que nous nous mêlions de ces choses, car nous sommes d'humbles gens, de pauvres fermiers. Nous ne faisons pas de politique. »
Sa voix trahissait une anxiété certaine. Une inquiétude visible se lisait dans les yeux de tous.
« Pourriez-vous nous indiquer la marche à suivre pour obtenir une audience auprès de votre gouverneur ?»
demanda Preacher d'une voix douce. C'est alors que se produisit l'imprévisible. Après un long moment de silence, l'ancien lui répondit
« Comment ? Vous ne le saviez donc pas ? Le gouverneur sera ici dès demain. Il attendait votre visite. Vous nous avez fait un très grand honneur, nous espérons ardemment que vous témoignerez auprès de lui de notre loyauté à son égard. »
Le sourire de Preacher se crispa imperceptiblement.
Il nous attendait ?
L'ancien considéra ses visiteurs avec un étonnement renouvelé.
« Mais enfin, voyons, voilà déjà une semaine que nous vous attendons. »
Le logement qui leur fut attribué était indubitablement luxueux si l'on considérait le niveau économique de la planète. Preacher avait connu bien pis. Quant à Chenis, il ne montrait qu'indifférence pour les contingences extérieures. Mais un élément de dissension venait de surgir entre les deux hommes et qui n'avait, à vrai dire, pas grand-chose à voir avec leurs conditions d'hébergement. Pritchard sentait venir le moment où une décision irréversible devrait être prise. Il n'en ressentait pas moins le besoin d'un délai supplémentaire. Une entrevue immédiate avec le gouverneur accroîtrait dangereusement les risques de la partie engagée. En revanche, en cas de victoire, les profits pourraient s'en trouver multipliés dans des proportions prodigieuses. Il se sentit envahi d'une bouffée de colère en considérant Chanis, dont les sourcils s'étaient légèrement rapprochés et dont la lèvre inférieure se contractait sur les incisives en une moue délicate. Il avait horreur de ces inutiles comédies, dont il attendait l'issue avec impatience.
Notre arrivée ne semble pas franchement les surprendre.
Non, se contenta de répondre Chanis.
C'est là tout ce que vous trouvez à dire? Vous n'avez pas d'autres commentaires plus judicieux à nous proposer? Nous débarquons ici, et on nous informe que le gouverneur nous attend.
Sans doute apprendrons-nous de sa bouche que tout le royaume de Finstelis était averti de notre arrivée imminente.
Dans ce cas, je ne vois pas très bien quelle pourrait être la valeur de notre mission.
Chanis leva les yeux sans faire le moindre effort pour dissimuler la lassitude de sa voix. Être averti de notre arrivée est une chose, connaître notre identité et les raisons de notre visite en est une autre.
Et vous croyez pouvoir les cacher aux hommes de la seconde fondation?
Et pourquoi pas, après tout? Seriez-vous déjà prêt à baisser les bras?
Supposons que notre vaisseau ait été détecté en cours de route. Est-il tellement extraordinaire qu'une puissance telle que celle-ci dispose de postes d'observation avancés à ses frontières?
Ne serions-nous que des étrangers ordinaires que nous présenterions néanmoins un intérêt?
Un intérêt à ce point évident, que le gouverneur en personne se dérange pour venir nous accueillir?
Chanis haussa les épaules. Nous aurons tout le temps de nous occuper de ce problème plus tard. Pour l'instant, voyons à quoi ressemble ce gouverneur. Pritchard découvrit ses dents dans un rictus amer. La situation devenait ridicule. Chanis poursuivit, feignant l'enthousiasme.
Nous sommes sûrs d'une chose, en tout cas. Finstelis est bien la seconde fondation.
À moins de conclure que des millions d'indices nous indiquent unanimement la mauvaise direction. Comment interprétez-vous cette terreur évidente que les autochtones ressentent à l'égard de Finstelis? Or, on n'aperçoit aucun signe apparent de domination politique.
Leurs groupes d'anciens se réunissent librement, pour autant que nous puissions en juger en tout cas, et sans intervention extérieure d'aucune sorte.
Les taxes qu'ils leur sont imposées ne semblent pas exagérées, et la collecte s'effectue sans grande rigueur. Les gens parlent beaucoup de leur pauvreté, mais nous n'avons croisé jusqu'ici que des grands gaillards à l'air bien nourris, vous l'aurez remarqué. Leurs habitations sont sommaires et leurs villages rudimentaires, mais ils répondent parfaitement aux exigences du climat. En fait, ce monde me fascine, je dois l'avouer. Je n'en ai jamais vu de plus inhospitalier. Néanmoins, je suis convaincu que la population ne souffre pas et que son existence, exempte de complications, lui apporte un équilibre, un bonheur dont ne jouissent pas les populations de nos régions plus civilisées, en dépit de leur sophistication.
Dois-je en conclure que vous êtes un fervent admirateur des vertus paysannes?
Les étoiles m'en préservent. Cette idée semblait amuser fort le jeune Chanis. Tout ce que je veux dire, c'est que cela me paraît très significatif. Apparemment, Finstelis administre son empire avec beaucoup d'efficacité. Quand je parle d'efficacité, j'entends ce mot dans un sens différent de celui qu'il pouvait avoir du temps de l'Ancien Empire ou de la Première Fondation. Rien à voir non plus avec l'Union des Mondes. Ces puissances-là ont certes apporté à leur sujet un confort mécanique indéniable, mais au détriment de valeurs plus intangibles. Finstelis apporte aux siens le bonheur et la satisfaction des besoins matériels. Ne voyez-vous pas que c'est leur système de dominance tout entier qui est orienté différemment? Leur domination s'exerce non pas sur le plan physique, mais sur le plan psychologique.
Pritchard se permit d'ironiser. Tiens donc. Et que faites-vous de cette terreur que les anciens manifestent à l'égard des punitions que ces bienveillants administrateurs infligent aux traîtres? Comment la conciliez-vous avec votre thèse?
Ont-ils été l'objet de sanctions? Ils ne parlent que des châtiments imposés aux autres.
On pourrait penser que la notion de punition a été à ce point implantée dans leurs esprits que le châtiment lui-même est devenu inutile. Leur mentalité en est tellement imprégnée qu'il n'existe pas, j'en suis certain, un seul soldat sur toute la planète.
Il me semble que cela saute aux yeux, vous ne trouvez pas ?
Cela me sautera peut-être aux yeux, répondit froidement Preacher, lorsque j'aurai rencontré le gouverneur. À ce propos, qui vous dit qu'on ne nous a pas nous-mêmes déjà conditionnés mentalement ?
Chanis répondit alors avec un brutal mépris. Ça, vous devriez vous en rendre compte mieux que personne. Vous devez avoir l'habitude. Preacher pâlit imperceptiblement et se détourna avec effort. Ils ne s'adressèrent plus la parole de la journée. Pas un souffle de vent ne venait troubler le silence de la nuit glaciale. Preacher tendait l'oreille, surveillant la respiration régulière de son compagnon. Rassuré, il régla alors son bracelet émetteur sur la longueur d'ultra-ondes que l'appareil de Chanis était incapable de capter. Et de la pointe de l'ongle, sans faire le moindre bruit, il se mit en communication avec le vaisseau. La réponse lui parvint sous la forme de courtes vibrations inaudibles qui dépassaient à peine le seuil des perceptions sensorielles. Par deux fois, Preacher demanda « Pas de nouvelles communications ?» Par deux fois, la réponse lui parvint « Aucune, nous attendons toujours. » Il sortit de son lit. Il faisait froid dans la pièce. Il s'enveloppa de la couverture doublée de fourrure et se plongea dans la contemplation des étoiles, si différentes par leur brillance et leur complexité de l'uniforme poussière galactique qui dominait les nuits de sa périphérie natale. Quelque part au milieu de ces astres se trouvait la réponse aux questions qui bouleversaient son entendement. Et il souhaitait ardemment que lui parvint enfin la solution qui résoudrait pour lui ses problèmes irritants. Pendant un instant, il se demanda une fois de plus si le mulet avait raison, si la conversion l'avait effectivement privé de cette énergie indomptable que donne la confiance en soi. Ou n'était-ce pas plutôt l'effet de l'âge et des vicissitudes que lui avaient valu les dernières années ? En réalité, il n'en avait cure. Il était fatigué de tout cela. Le gouverneur de Rossem arriva en modeste apparat. Il avait pour seul compagnon un homme en uniforme assis aux commandes du VI-sol. D'un luxe tapageur, le VI-sol en question s'avéra pourtant particulièrement inefficace aux yeux de Preacher. Dépourvu de maniabilité, il virait avec une lamentable gaucherie, et plus d'une fois le moteur cala par suite d'un changement de vitesse trop précipité. Il était évident, à première vue, qu'il utilisait un combustible chimique et non atomique. Le gouverneur finstélien mit pied à terre et s'avança d'un pas léger sur la fine couche de neige qui recouvrait le sol entre deux rangées d'anciens respectueusement alignés pour la circonstance. Sans même leur adresser un regard, il s'empressa de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Tous les suivirent aussitôt. Assis aux places qu'on leur avait assignées, les hommes du mulet, les deux représentants de l'Union, observaient la scène. Le gouverneur était un individu trapu, plutôt massif, courtaud, fort peu impressionnant. Et puis après ? Preacher maudit son absence de sang-froid. Son visage demeurait bien entendu parfaitement inexpressif. Sa défaillance passerait inaperçue de Chanis. Il n'en était pas moins conscient du fait que sa tension artérielle s'était accrue et qu'il avait à présent la gorge sèche. Il ne ressentait pas, à vrai dire, une peur physique au sens strict du terme. Il n'était pas de ces êtres stupides, dénués d'imagination, trop frustes pour avoir peur de quoi que ce soit. Dommage, en un sens. La peur physique était un sentiment qu'il savait pouvoir raisonner et dominer le cas échéant. Mais ce n'est pas cette peur-là qu'il ressentait. C'était l'autre. Il jeta un coup d'œil rapide en direction de Chanis. Le jeune homme examinait ses ongles dont il grattait machinalement une imperceptible aspérité. Une vague d'indignation gagna Preacher. En quoi la manipulation mentale pouvait-elle bien inquiéter quelqu'un dans la situation de Chanis ? Preacher prit une profonde inspiration et s'efforça de réfléchir. Que s'était-il donc passé au juste? Dans quel état d'esprit se trouvait-il avant que le mulet eût converti le démocrate qu'il avait été jusque-là? Il lui était bien difficile de s'en souvenir avec précision. Il n'avait pas une conception bien nette de sa propre personnalité mentale. Il était impuissant à rompre les fils de la toile d'araignée qui le liait émotionnellement au mulet. Sur le plan intellectuel, il se souvenait qu'il avait tenté une fois d'assassiner le mulet, mais en dépit de tous ses efforts, il lui était impossible de retrouver les sentiments qui avaient motivé son acte. Cependant, il pouvait fort bien s'agir d'une sorte de mécanisme inconscient d'autodéfense mis en place par son propre esprit, car à la seule intuition de ce que ses sentiments auraient pu être, sans qu'il fût question de détails mais seulement de l'orientation générale de son influx émotionnel, il sentit des nausées lui monter à la gorge. Et si le gouverneur tentait à son tour de modifier son esprit? Qu'adviendrait-il si les tentacules psychiques d'un membre de la seconde fondation s'insinuaient le long des anfractuosités émotionnelles de son psychisme pour les faire éclater et les rassembler à nouveau selon une configuration différente? Il n'avait éprouvé aucune sensation particulière la première fois. Aucune souffrance, aucun déchirement affectif, pas même le plus petit sentiment de rupture. Depuis toujours, 5 courtes années qui étaient devenues pour lui une éternité, il aimait sincèrement le mulet. S'il avait parfois l'impression de n'avoir pas toujours aimé le mulet, de l'avoir détesté même, il ne pouvait s'agir que d'une affreuse illusion. La seule pensée de cette illusion le plongeait dans l'embarras le plus profond. Mais de souffrance, point. La rencontre avec le gouverneur serait-elle une réédition de cette expérience? Tous les événements qui constituaient désormais son nouveau passé, sa dévotion inconditionnelle au service du mulet, la nouvelle vie qu'il avait connue à son service, iraient-ils hanter à leur tour le royaume des ombres en compagnie de ce mot jadis familier qu'il avait appris à oublier? Démocratie. Ombre parmi les ombres, le mulet disparaîtrait à son tour de son esprit, et Preacher consacrerait désormais sa loyauté à la seule Finstelis. Il se détourna brusquement. Il sentit monter en lui une violente envie de vomir. À cet instant précis, la voix de Janice retentit à son oreille. « Cette fois-ci, je crois que ça y est, général. » Preacher se tourna dans l'autre sens. Un ancien venait d'ouvrir silencieusement la porte et se tenait immobile sur le seuil, humble et digne.
« Au nom des seigneurs de Finstelis, son Excellence le gouverneur a le plaisir de vous accorder une audience et vous demande de bien vouloir paraître devant lui.
S'il n'y a que ça. »
Janice resserra sa ceinture d'une secousse et rabattit la capuche de sa houppelande rossémite. Preacher sentit ses mâchoires se contracter. La véritable partie allait enfin commencer. Le gouverneur de Rossem n'en imposait pas par sa prestance. Tout d'abord, il était nu-tête, et ses cheveux châtains, clairsemés et grisonnants, accentuaient encore la douceur naturelle de ses traits. Il baissa la tête et se mit à considérer attentivement ses visiteurs. Sous ses arcades sourcilières proéminentes, ses yeux perdus au milieu d'un fin réseau de rides prirent alors une expression particulière qu'on eût pu confondre avec de la méfiance. Cependant, son menton rasé de frais était petit et fuyant, et selon les canons de cette pseudo-science qui prétend déterminer le caractère par l'étude de la conformation faciale, le gouverneur de Rossem avait tout d'un faible. Preacher évita les yeux et se concentra sur le menton. Il ne savait pas si cette manœuvre serait efficace ou s'il existait quelque possibilité de parade. Le gouverneur s'adressa à eux d'une voix flûtée, sur le ton de la plus parfaite indifférence.
« Bienvenue sur Finstelis, que la paix soit avec vous. Avez-vous mangé ?»
Quatrième interlude. Les deux orateurs se croisèrent sur la route et s'arrêtèrent.
J'ai reçu un message du premier orateur, dit l'un d'eux.
Une lueur d'appréhension brilla dans les yeux de l'autre.
Le point d'intersection ?
Oui.
Puissions-nous vivre pour voir se lever une nouvelle aube ?